Éric-Emmanuel Schmitt, bonjour.
Bonjour.
Il y a un peu plus de 20 ans, en 1997, alors que vos pièces de théâtre rencontraient de plus en plus de succès, vous publiez le premier roman qui inaugurait ce que vous avez appelé le cycle de l'invisible, Milarepa, sur le bouddhisme tibétain, suivi par Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran sur l'islam, le très célèbre et émouvant Oscar et la Dame Rose sur le christianisme, puis des livres sur le judaïsme, le zen, le confucianisme, la musique que vous élevez au rang de religion, on va en reparler, et enfin ce nouveau livre, Félix et la source invisible, que vous venez de publier, toujours chez Albin Michel, et qui s'intéresse à l'animisme africain. Alors Éric-Emmanuel Schmitt, quand vous avez écrit Milarepa, en 1997, vous saviez que vous commenciez un grand cycle sur les religions qui allait durer aussi longtemps?
Non. Non, non. Et c'est un entretien avec un journaliste qui m'a fait comprendre ce que j'avais à faire. J'écris ce texte, Milarepa, qui était à la fois un court roman et un texte destiné à la scène. Bruno Abraham Kremer, l'acteur, le crée à Lausanne. Et je fais différentes rencontres avec des journalistes. Et je fais une heure à la télévision, à la radio culturelle suisse, avec un journaliste formidable. Et qui conclut l'entretien au bout d'une heure en me disant, bon, naturellement, vous êtes bouddhiste. Ben, je lui dis non. Il me dit, mais pourquoi avez-vous écrit un texte sur le bouddhisme si vous n'êtes pas bouddhiste? Et je lui ai répondu, mais est-ce qu'il faut être noir pour être antiraciste? Et là, j'ai eu un éclair. Je me suis dit, mais c'est ça qu'il faut que je fasse. Ne pas parler d'une religion ou d'une spiritualité, mais d'en parler au pluriel, d'avoir un regard au fond humaniste sur les spiritualités. Et parce que souvent, le discours sur les religions, il est mono-religieux. Parfois, il est soit prosélyte, soit critique, mais toujours par rapport à une religion. Et moi, je voulais montrer l'importance du spirituel sous ses différentes formes dans l'humanité.
Alors, je me suis demandé si cette aventure romanesque sur les religions s'enracine dans votre propre expérience que vous nous aviez partagée dans la nuit de feu.
Oui,
ce que vous avez vécu dans le désert.
Oui, parce que j'ai eu cette chance de vivre dans le désert une nuit mystique, une nuit de feu. Et cette nuit, comme je n'avais pas de cadre religieux, cette nuit, c'était une expérience de l'absolu, c'était une expérience de Dieu, c'était une expérience de la lumière et de la chaleur, qui était non pas une expérience religieuse, mais une expérience spirituelle. Et c'est vrai que lorsque je suis rentré en France, je me suis mis à lire les grands mystiques de la Terre.
Des différentes religions.
Et je me découvrais avec surprise des frères et des sœurs partout sur la terre et en des époques différentes et dans des spiritualités différentes. Et je me disais, au fond, on parle tous de la même chose.
Alors justement, est-ce que cette expérience que vous avez vécue ne transcende pas toutes les religions?
Si.
Et quelque part, est-ce qu'on a besoin des religions?
Alors, on a besoin des religions. Mais je pense exactement comme Bergson que toutes les religions ont le même centre, la même origine, le cœur mystique. Et que c'est l'expérience mystique qui est à l'origine de toutes les religions.
Et qu'est-ce qu'on définit par ce cœur mystique?
C'est-à-dire la rencontre de l'absolu, le fait d'être inondé par la confiance et par la lumière, le fait de percevoir qu'on doit faire crédit à la condition humaine et que tout a un sens, même si on ne le perçoit pas. C'est à la fois le sentiment d'infini et le sentiment de sa propre finitude. C'est les deux à la fois. Et Bergson nous dit que ce cœur chaud, ce cœur mystique, ce feu est à l'origine des religions et que les religions ne sont qu'un refroidissement de ce feu. Des manières de dire, des manières de mettre en dogme, des manières de raconter l'histoire, des liens concrets, des rites. Donc c'est une façon de détailler le cœur mystique. Alors forcément les façons de détailler le cœur mystique ce sont différentes, mais moi à travers le cœur mystique je retrouve à chaque fois dans les religions ce qu'il y a. Et j'ai envie de dire à la suite de Bergson que parfois les religions elles finissent par être glaciaires par rapport au cœur de feu qui est à l'intérieur, parce que parfois l'institution s'oublie. Et les grandes personnalités religieuses sont des personnalités qui réaccordent l'institution avec le cœur de feu.
Mais alors Éric-Emmanuel Schmitt, il y a quand même une question qui taraude à mon avis beaucoup d'auditeurs. C'est si ce cœur de feu est un, si cet au-delà de tout est un, pourquoi y a-t-il autant de religions, voire de religions qui s'opposent?
Parce que même Dieu a une histoire. parce que même l'absolu s'incarnant se différencie. Voilà, moi je crois que je dis pas que je suis absolument pas en train de dire que les religions sont semblables, mais je pense qu'elles parlent toutes de la même chose, c'est-à-dire que déjà d'un point de vue très plat, je dirais que toutes les religions sont humanisantes. Toutes les religions ont la volonté de faire se dresser l'homme au-dessus de son égoïsme animal, de son intérêt. Toutes les religions ont pour but de développer l'altruisme en l'homme. La bienveillance, cultiver la bienveillance plutôt que de cultiver la force et la guerre et la violence. Toutes les religions ont une idée de l'homme qu'il redresse sur ses pattes et qu'il les transforme en jambes. Et je ne sais pas si toutes les religions sont divinisantes, elles sont toutes humanisantes. Donc je dirais même l'athée le plus forcené doit avoir du respect pour ses religions. Et je dirais même que l'athéisme est un produit des religions. Mmh. Aujourd'hui, si la société veut se penser de manière horizontale et sans transcendance, c'est parce qu'il y a eu cette fonction humanisante de toutes les religions qui ont finalement créé des valeurs et créé des liens et créé cette idée d'humanité à part. Donc voilà, moi je milite pour un respect des spiritualités.
L'entretien de la semaine, RCF.
Éric-Emmanuel Schmitt, avec votre nouveau livre « Félix et la source invisible » sur l'animisme africain, est-ce que fondamentalement vous ne revenez pas justement à la source de toutes les religions ?
Je ne sais pas. Ça, c'est un peu la théorie d'Auguste Comte, hein, et du positivisme, qui est que la religion spontanée, ça serait l'animisme.
La mère de toutes les religions.
La mère de toutes les religions. J'ai eu un mal fou à comprendre l'animisme. Parce que j'ai essayé de le comprendre avec ma raison. Et j'ai échoué. Et ça m'a pris des années. Et je lisais sur l'animisme. Et puis tout d'un coup, j'ai saisi qu'on percevait l'animisme pas par la raison, mais par l'imagination.
D'où cette phrase de Papa l'homme, l'Afrique c'est l'imagination sur terre, l'Europe c'est la raison sur terre. Tu ne connaîtras le bonheur qu'en important les qualités de l'un dans l'autre. Oui. Vous pouvez nous l'expliquer cette phrase?
je crois profondément à ça, c'est-à-dire que l'Afrique, cette terre au soleil cru, a inventé l'invisible, alors que c'est l'endroit où le monde est visible. D'une façon insolente, c'est-à-dire elle a doublé notre expérience du monde d'un monde invisible, c'est d'un monde d'esprit, d'un monde de démons, d'un monde d'âme, et elle a finalement donné une fonction symbolique au monde. Elle a organisé le monde par-dessous, et l'homme a besoin de ça. L'homme ne peut pas se contenter de vivre ce qu'il vit, il a besoin de trouver le sens des choses. Et donc l'Afrique nous a offert un réseau, un lien d'explication, enfin une symbolique très puissante d'ailleurs, qui est capable de soigner l'esprit par l'esprit.
C'est ce que vous appelez l'imagination?
C'est ce que j'appelle l'imagination.
Parce que dans ce livre, Papa l'homme, qui est un peu, on va dire, le maître spirituel ou
oui.
Le chaman, ou je sais pas quel mot utiliser pour cet homme.
Le guérisseur.
Ou le guérisseur, saint sage. Il utilise beaucoup l'imagination du petit Félix qui arrive à travers une pierre, à travers un arbre. L'Afrique guérit et accompagne quelque part grâce à l'imagination.
Moi, je crois que l'Afrique connaît les pouvoirs de l'imagination. Plus que l'Occident qui la prend pour la folle du logis.
Non, on en a peur de cette
imagination. On en a peur d'imagination. Alors qu'en fait, en même temps, dans l'Occident, on célèbre les artistes qui sont justement des princes de l'imagination. Donc on a besoin de l'imagination, mais on en parle mal. L'Afrique en parle bien. Et quand Papa Loum donne une pierre, du bois d'ébène.
Du bois d'ébène, plutôt.
À Félix pour qu'il puisse s'endormir, ça marche. Mais au bout d'un temps, il lui dit, attention, l'ébène n'a que les propriétés que ton esprit lui donne, que ton imagination lui a donné. Mais on peut soigner l'esprit par l'esprit. En fait, cette idée qu'aujourd'hui on connaît par la psychanalyse, et que tout le monde accepte par la psychanalyse, elle est à l'intérieur de l'animisme africain. Soigner l'esprit par l'esprit, soigner les êtres par la fonction symbolique.
On peut utiliser le mot « c'est la foi » aussi. C'est la foi qui sauve. Non ?
Oui, c'est retrouver cette confiance dans la condition humaine. Pas penser qu'on nous a fait un sale coup en nous mettant en vie. Il n'y a pas un Africain qui pense ça. Regardez le nombre d'Occidentaux qui pensent qu'on leur a fait un sale coup en les mettant au monde. Et le nombre de philosophes ou de penseurs ou de romanciers qui répercutent cette idée mortifère.
Éric-Emmanuel Schmitt, rapidement, je le disais dans l'introduction, vous avez inclus la musique dans le cycle de l'invisible. C'est une religion pour vous,
C'est une spiritualité, pas une religion. Mais moi, par contre, je la pratique comme une religion. Oui, la musique a ce pouvoir de vous toucher au plus profond de l'âme. La musique a le pouvoir de vous redonner de l'énergie quand vous n'en avez pas, l'énergie spirituelle. La musique a le pouvoir de vous donner des larmes quand vous êtes sec parce que vous n'osez pas aborder votre territoire intérieur. Moi, la musique plusieurs fois m'a guéri, m'a soigné, m'a remis en vie, m'a permis de faire le deuil. La musique m'a accompagné dans les grands moments de ma vie et elle continue à le faire. C'est pour ça que le livre précédent du cycle de Navidil, c'était Madame Pilinska et les secrets de Chopin, où je montrais comment la musique de Chopin peut vous apprendre à écouter, peut vous apprendre le murmure, la force du murmure, la puissance du murmure, peut vous faire entrer dans un univers de nuances, bref, peut vous rendre vivant.
Ce Félix est la source invisible et le dernier tome de ce cycle de l'invisible, ou est-ce qu'il y en a d'autres?
Non, j'ai envie, moi, de parler encore d'autres choses. Mais entre l'envie et le fait que l'histoire soit totalement là avec sa force et ses personnages, il se passe parfois des années. J'ai été très lent sur ce cycle de l'invisible. Parce que je voulais pas être dogmatique, je voulais pas être factice, je voulais à chaque fois qu'il y ait une incarnation. Et ça, parfois, ça me prend du temps.
Donc a priori, il y aura une suite à découvrir. En tous les cas, on peut déjà lire Félix et la source invisible, ce nouveau livre de ce cycle de l'invisible que vous publiez chez Albin Michel. Merci Eric Emmanuel Schmitt.
Merci.